En fait, ma jeunesse, c'était au moment des années hippies, pas pour ceux qui ont un peu ma génération, hein, vous me situez un peu, hein, les années hippies. Et c'est les années où ma jeunesse, on était plein de rêves, on voulait refaire le monde, changer la société, on rêvait. Et vous savez, ce slogan qu'on avait à cette époque-là, c'est « Faites l'amour, pas la guerre hein. ». Donc, très idéaliste. Et moi, j'étais un jeune homme comme ça, hein, avec beaucoup d'idées pour la société, changer le monde, vous voyez. Et on avait beaucoup de rêves comme ça, mais on était un peu marginaux sur les bords. Hein. Et lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, parce que j'étais un garçon curieux, j'ai commencé à fumer les premiers joints. Pas parce que j'étais malheureux, pas parce que j'étais mal, pas parce que j'étais voyou, mais parce que je voulais voir ce que ça faisait, parce que j'avais envie de découvrir les choses. Hein. Et j'ai fumé, mais j'ai aimé beaucoup l'ivresse que procurait le hashish. J'ai aimé cette ivresse, ça me plaisait beaucoup. Et avec les mois qui passaient, peu à peu, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Hein. Mes parents étaient propriétaires d'un ensemble, un café, et aussi un ensemble qui avait un nightclub, une boîte de nuit, avec tout un ensemble, une structure importante. Et parce que j'étais le fils du patron, j'avais beaucoup de relationnels avec les musiciens, les marginaux, etc. Parce que mon père était un homme bon et il accueillait beaucoup les jeunes un peu, voilà, les marginaux, les jeunes un petit peu comme ça qui n'allaient pas trop bien. Mon père, il les aimait bien et les jeunes, eh bien, ils se retrouvaient, ils faisaient de la musique, ils consommaient un peu, ils fumaient beaucoup. Et voilà, ils se retrouvaient. Ce qui fait que très vite, j'étais au contact de la drogue comme ça. La drogue comme ça, au travers du café de mes parents, du nightclub, où j'ai aidé mes parents à travailler là, à côté de mes études. Et finalement, le garçon heureux que j'étais, j'ai une enfance très heureuse, très des bons parents, et le garçon heureux que j'étais, peu à peu, a commencé à se flétrir. Ma vie a commencé à être moins bonne. Au fur et à mesure que j'avançais, la déception rentrait en moi, et la drogue commençait à nous éteindre. Vous voyez, à l'intérieur, on commençait à s'éteindre. La bande de copains que nous étions commençait à se ternir et il y avait moins de solidarité entre nous. On riait beaucoup moins. C'était plus la paranoïa qui commençait à grandir. Et au bout d'un moment, vous savez, quand on est dans ce milieu-là, on ne sait plus faire que ça. On savait faire des pipes à eau, on savait faire des choses comme ça, mais autrement, faire quelque chose d'utile, on ne faisait pas, n'est-ce pas? Et ma vie a commencé à se fermer. Et je voyais progressivement tout s'éteindre en moi, mes idéaux, mes perspectives. J'ai compris qu'on était incapable, nous, de vivre notre idéal, vous savez, parce qu'on n'arrivait même pas à s'entendre, parce qu'ils disaient, les copains disaient, on va faire une communauté ensemble, on va vivre en communauté. C'était les moments pour ça. Et alors ils discutaient longtemps pour savoir si on aurait l'électricité ou pas l'électricité. Et celui qui jouait de la guitare électrique dit, ouais, on aura de l'électricité, parce que je veux jouer de la guitare électrique. Vous voyez un peu si ça allait loin, les idées. Hein. Et bon, au bout d'un moment, on comprenait qu'on n'irait pas très loin, d'accord? Mais je voyais les garçons, donc la bande qui ne s'allait pas, quoi. Et moi-même, je faisais des malaises avec la drogue, je faisais des malaises, je n'étais pas bien dans ma vie. Et moi, qui est naturel optimiste, j'ai commencé à voir sombre, vous voyez. Et j'avais plus goût à la vie, rien ne marchait dans ma vie. Ma vie sentimentale, ça ne se passait pas bien. J'avais des aventures, mais ça n'allait pas. Ma vie d'étudiant, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui allait, en fait. Et au fond de moi, il y avait une recherche d'absolu. Hein, il y avait une recherche d'absolu, il y avait une recherche de vérité. Et j'étais tellement déçu de l'existence. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a rien dans ce monde? Est-ce qu'il n'y a pas une vérité? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-haut? Et je suis vraiment arrivé avec cette idée-là. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un là-haut. Ça doit être bien de croire. Mais je n'étais pas croyant. Mais je me dis, ça doit être mieux d'être croyant. Parce que c'est triste autrement le monde. Parce qu'on va où comme ça? Et il n'y avait pas d'espérance, vous comprenez? Et à un moment donné, j'ai crié comme ça. J'ai un souvenir très précis de cet instant où j'ai regardé vers le ciel et j'ai appelé, quoi. Et il y a quelqu'un, j'ai appelé, je ne savais pas. Et un sentiment intérieur très fort qui s'est imprimé en moi, ce quelqu'un là-haut, il m'a entendu. C'est bizarre, hein? C'était pas une longue prière qui a duré 10 ans, hein? C'était juste un instant où j'ai regardé le ciel et j'ai dit, il y a quelqu'un là-haut. avec ce sentiment qu'il y a quelqu'un. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un dans la pièce à côté, où vous sentez sa présence, vous savez qu'il y a quelqu'un. Mmh. Ouais. Même vous ne l'avez pas vu, vous sentez. Et ce jour-là, j'ai eu le sentiment que cette personne là-haut avait entendu. Bon, il ne s'est rien passé de suite. Mais dans les temps qui ont suivi, on m'a donné un Nouveau Testament. J'avais déjà essayé de lire la Bible, mais c'était un peu fastidieux, vous savez, la Genèse, tout ça. Et au bout d'un moment, quand vous arrivez un peu au livre du Lévitique, et tout ça, après, c'est fini, et vous abandonnez, quoi. J'arrivais pas à lire la Bible. Mais lorsqu'on m'a donné le Nouveau Testament, juste le Nouveau Testament, je me suis dit, ah, mais c'est bien ce qui est écrit. C'est pour ça, moi, je donne que des Nouveaux Testaments, parce que je dis, les gens, autrement, moi, je me suis perdu avec la Bible. Hein, et le Nouveau Testament, j'ai dit, ah, c'est bien, cette histoire-là. Et j'aimais ça. C'était beau, j'ai dit, mais c'est pourquoi les gens, ils veulent pas de ça, c'est bien ça. Et j'ai lu jusqu'au jour, ou un soir, pourquoi ce soir-là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose de très important dans ma vie. Je lisais une brochure d'un évangéliste que vous devez connaître, Billy Graham. Je n'ai jamais retrouvé cette brochure, je ne sais même plus exactement, mais ça racontait la crucifixion de Jésus. Vous voyez ? Mais je lisais ça, et puis... Au fur et à mesure que je lisais, ça devenait vivant ce que je lisais, vous voyez. Ça prenait forme en moi, ça devenait réel. C'était, j'étais, comme je disais hier aux jeunes, c'est comme si j'étais rentré dans le film. Vous voyez, quand vous êtes pris par un film, et que vous oubliez tout le reste, vous savez, et pendant un moment, et là j'étais dedans, et c'est comme si j'étais à Jérusalem, à Golgotha, en train de voir Jésus qui porte sa croix, j'étais à fond dedans, et... Cet épisode m'a bouleversé. Je me suis mis à pleurer tout seul dans ma chambre, comme ça. J'ai pleuré. Et c'était bizarre pour moi, mais... Et je me suis senti tellement minable, un garçon minable, mais à la fois, tout d'un coup, la pièce qui se remplit d'amour. Étonnant, n'est-ce pas? Jamais on m'avait expliqué qu'une chose pareille pouvait m'arriver. Je n'étais pas un mystique, hein, moi. Hein, je n'étais pas un mystique. Bon, j'avais les pieds sur terre, et tout d'un coup... une sensation étrange, mais tellement réelle, que c'est plein d'amour. L'endroit où il est, c'est plein d'amour, et cet amour, il commence à me remplir des pieds à la tête. C'est énorme. Et une sensation de proximité avec Dieu, incroyable. C'était nouveau. Et comme j'ai dit hier, Dieu m'a pas donné sa carte de visite, c'est moi, je suis Dieu. Il n'y avait pas besoin. Je savais que c'était Dieu. J'ai pas posé de questions, j'ai compris qu'il était là, que c'était le Dieu du ciel, mon créateur. C'était énorme comme sensation. J'étais vraiment ébahi, quoi. Mais une chose pareille, ça peut exister. Et à partir de ce jour-là, je savais que Dieu était vivant. C'était une certitude. Le matin, je me lève et je me suis dit, c'est marrant, je me sens un autre garçon, quoi. Je me sens différent. J'avais une sensation étonnante. Mais je ne connaissais pas l'Église. Je ne savais pas comment on faisait pour prier. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était un chrétien. Donc, que faire maintenant? Je ne savais pas trop. J'avais une vie un peu dissolue, un peu désordonnée. Je sentais bien que je devais arrêter mon genre de vie. Je sentais bien, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Alors, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait une rupture dans ma vie avec mon style de vie, avec les gens que je fréquentais. Alors, j'ai décidé de partir en voyage. Je fuyais le mal, en fait. Je fuyais la vie mauvaise. Je fuyais tout ce qui m'éloignait du bien et de Dieu. Je fuyais. Je voulais partir. Je voulais rompre tout ça. Et j'ai pris le sac à dos avec un peu d'économie. Et puis je suis parti. Je suis parti pour l'Afrique. Je suis parti en autostop. J'ai traversé l'Espagne, le Maroc, la frontière, l'Algérie. En Algérie, j'ai trouvé un moyen de traverser le Sahara. Je suis arrivé au Niger, Burkina Faso, tout ça. Beaucoup d'aventures. Beaucoup de sortes de choses qui m'arrivaient, et puis avec au fond dans ma poche une adresse qui était devenue pour moi l'objectif de ma vie, avec une certitude, je dois aller à cet endroit. C'était quoi cette adresse? C'était une adresse qu'on m'avait remise avant que je parte, l'adresse d'une jeune fille qui traduisait la Bible dans une station missionnaire dans le sud de la Côte d'Ivoire, et j'ai compris que je devais aller là. C'était en moi. Je dois me rendre là coûte que coûte. Avec le peu d'argent qui me restait, j'allais arriver là. Et puis après, ce qui allait se passer, je ne savais pas. Mais j'étais très loin de chez moi, très loin de ma famille. sans moyens, sans ressources. C'était dangereux quand même ce que j'avais fait. Mais j'étais pas courageux pourtant, mais Dieu me poussait. Je comprends aujourd'hui que c'est Dieu qui me poussait. Et voilà, j'ai poursuivi mon voyage, cette aventure-là, et je suis arrivé dans ce lieu, et je me dis, est-ce que ces gens vont m'accueillir? La fille qui traduisait la Bible, j'ai oublié de le dire, on se connaissait un peu de vue, parce qu'elle venait de mon lycée, on était du même lycée, je la connaissais un petit peu quand même. J'avais été invité à une réunion chrétienne, à laquelle je n'avais pas pu me rendre, et je savais qu'elle était chrétienne, et donc on se connaissait un peu. Et je me dis, voilà, comment ça va se passer? Alors, mon père, en fait, avait écrit que je risquais de passer, peut-être. Alors, ils ont été surpris, mais qu'à moitié. Et voilà, j'arrive là, dans cet endroit, au milieu de la forêt, au milieu d'un village africain, et je dis, voilà, c'est moi. Est-ce que vous m'accueillez? Et ils m'ont bien reçu, ils m'ont reçu comme si j'étais un ange, n'est-ce pas? Ils m'ont fait une place dans la maison, un lit, ils m'ont donné à manger. Puis, plus que cela, ils m'ont apporté la parole de Dieu. Ils m'ont apporté Jésus-Christ. Pour moi, c'était des jours merveilleux, magnifiques. J'étais tellement fatigué de ma vie passée. J'avais 22 ans. Mais j'avais eu tellement le sentiment que ma vie était finie, qu'il n'y avait plus rien. Et là, tout d'un coup, je revivais, vous voyez. Ce qu'on me proposait, mais c'était formidable. Mais je me dis, mais pourquoi je ne savais pas ça? Pourquoi on ne me l'avait pas dit? C'est trop grand, c'est merveilleux. Et quand je suis rentré en France, j'avais envie de le dire à tout le monde, quoi. C'était énorme, d'ailleurs. Je regrette, j'ai perdu un peu ça. J'avais envie d'arrêter des gens dans la rue. Vous savez pas, c'est formidable, tu existes. Et je l'ai rencontré, quoi. C'était trop grand. Et là, alors, j'ai eu un cadre de vie formidable, parce que c'était une école biblique, là où une station missionnaire, une école biblique, et autour de moi, il n'y avait que des pasteurs en formation. J'étais bien entouré, il n'y avait pas de toxicomane, il n'y avait pas de dealer, j'étais environné que de gens très très bien, vous voyez. C'était génial, quoi. C'était l'ITB pour moi, quoi. Alors, j'assistais au cours, j'avais faim de la parole de Dieu. Et le Seigneur, il a vite fait un travail dans mon cœur. Les changements, c'est vite arrivé. Le tabac fini, l'alcool fini, le joint, c'était fini. Ma vie a changé, n'est-ce pas? Et puis c'était facile. Ça fait tellement de fois que j'avais voulu arrêter le tabac, par exemple. J'avais arrêté 4, 5, 6 fois. Chaque fois, je reprenais, vous voyez. Ça ne tenait pas. Et là, ça y est, ma vie était transformée. Et là, dans la rivière, j'étais baptisé par un pasteur africain dans un petit village qui s'appelle Katadji. Ça a été pour moi des moments extraordinaires. Honnêtement, j'avais envie de rester là-bas, je me plaisais, c'était pas pour moi la vie nouvelle, j'étais heureux, je ne serais jamais parti pour rien. J'ai ici dans ce pays, mais je serais bien resté là-bas, à Abidjan. C'était pour moi une vie superbe, la foi, les gens, et le dynamisme, et l'église, une église en marche, mais vraiment une église forte, puissante, c'est impressionnant. Une action de Dieu étonnante. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a accompagné après, dans mes premiers pas. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas comment c'était une église évangélique. Moi, je connaissais l'église avec des tam-tams, vous voyez. Et j'arrive à l'église, ils étaient avec des vieux cantiques. Alors, ça m'a fait un peu bizarre, mais la grâce de Dieu était là. Moi, on aurait pu chanter n'importe comment, ça m'était égal. J'aimais Jésus, quoi. Il avait changé ma vie. Quand je suis rentré, j'ai essayé de parler à mes copains. Venez, écoutez, il est devenu fou, Frédéric. Ils m'ont rejeté, en fait. Ils n'ont pas aimé le garçon que j'étais devenu. Ils aimaient l'ancien, mais ils n'aimaient pas le nouveau. J'ai même pas eu moi. Je ne les ai pas rejetés, ceux qui ne les intéressaient plus, vous voyez, parce que je ne fumais plus, j'étais sérieux, je parlais de Dieu. Et malheureusement, aucun n'a suivi. Par contre, mes parents, ma maman, elle a vu, oulala, le garçon qui nous revient, là, il est bien, quoi. Il a changé, quoi. Alors, elle a vu, il y a quelque chose, là. Il y a une puissance, il y a un miracle qu'il y a dans sa vie. Et ma mère a aimé le changement, vous voyez. Ma mère, elle a apprécié comment je suis devenu. Parce qu'avant, elle était inquiète. Elle me voyait partir, aller, venir, faire de l'autostop. Elle se disait, mon fils, il est où? Il est dans le désert, là-bas. Il est après, ou alors je voyageais souvent comme ça. Elle savait sur les routes, traîner, dormir, là où je pouvais. Ma mère était inquiète. Mais je ne le réalisais pas trop, moi. J'étais insouciant. Mais Dieu m'a gardé. Et alors, ma mère, quand elle a vu le changement, elle s'est donnée au Seigneur, à mes parents, ma jeune sœur. Et puis, comme je disais, hier, le lieu, la boîte de nuit de mes parents était vendue à l'église parce qu'ils ont fait une plus grande église, l'église grandissait et le lieu a été transformé. Les frères et sœurs qui sont venus au début, ils ont visité le lieu, oui, c'était une boîte de nuit. Alors il y en a, ils n'imaginaient pas, ils voyaient les coussins, les fauteuils, les lumières tamisées, tout ça, l'odeur du tabac. Ils disaient non, pasteur, on ne peut pas. Ils étaient contre le pasteur, certains. Ils disaient non, on ne peut pas, mais tout a été transformé, on a fait des travaux. Et puis la présence de Dieu est venue dans ce lieu. Puis j'étais le premier à se marier dans ce local. Après. Voilà, une belle aventure avec le Seigneur. Et bon, tellement de choses à raconter, si d'autres on pourrait, mais voilà comment j'ai trouvé Jésus. Puis je ne l'ai pas lâché. C'était en 79, j'avais 22 ans. Mais j'y pense des fois, qu'est-ce que je serais devenu? Vous savez, des fois, j'ai lu dans le journal, une fois, un de mes copains, il avait attaqué une vieille pour lui prendre son sac. Seigneur, je serais devenu comme lui. C'était à pleurer, n'est-ce pas? Des garçons qui étaient gentils. Et quand j'ai vu comment ils sont devenus, je dis, Seigneur, c'est tragique, tu m'as arraché à ça. Et je suis reconnaissant qu'il m'a éclairé de la vérité.